Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron en plein marathon diplomatique. Il doit déjeuner avec le Premier ministre britannique Boris Johnson ce midi avant de se rendre au G7 ce week-end à Biarritz. Il enchaîne les rencontres avec des leaders du monde entier. Mais pour quel résultat? On verra ça avec Franck Madvon.
Boris Johnson est donc attendu à l'Élysée. Ce personnage atypique de la politique outre-Manche a souvent critiqué la France par le passé. Florilège de ses meilleures déclarations avec Élise Delève.
Le régime syrien regagne un petit bout de terre dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. La ville stratégique de Khan Cheikhoun est désormais sous le contrôle des forces du président Bachar el-Assad.
Jean-Luc Mélenchon va-t-il passer le flambeau? Se prépare-t-il pour la prochaine présidentielle? On ne sait pas ce que ça cache, mais il ne sera pas à l'université d'été de son mouvement La France Insoumise, qui démarre aujourd'hui à Toulouse.
L'agenda d'Emmanuel Macron est chargé en cette fin de semaine. Un déjeuner ce midi avec le Premier ministre britannique, des rendez-vous avec les dirigeants grecs et indiens, une réunion prochaine avec des représentants iraniens, tout ça avant le G7 qui s'ouvrira samedi à Biarritz. Le président français tient à jouer un rôle de premier plan à l'international. Il n'a de cesse de s'impliquer, mais sans grand résultat, Franck Madvon.
En un peu plus de 2 ans, Emmanuel Macron s'est beaucoup activé sur la scène diplomatique, mais n'a encore enregistré aucun succès majeur. Les efforts de médiation sur la Libye, ou plus récemment l'Iran, n'ont rien donné. En Europe, le moteur franco-allemand tourne au ralenti. L'opération séduction menée auprès de Donald Trump a été un échec. L'Américain campe sur ses positions et rejette le multilatéralisme. La séquence à venir est donc importante pour Emmanuel Macron, l'occasion de réaffirmer les objectifs diplomatiques de la France et d'appliquer une fois de plus sa méthode, créer une relation personnelle avec les autres dirigeants. Pierre Vimont est ancien ambassadeur, chercheur associé à Carnegie Europe.
Jusqu'à maintenant, cette méthode-là n'a pas produit beaucoup de résultats, mais on voit bien, et on l'a vu encore ces derniers jours avec l'entretien entre le président de la République et le président Poutine à Brégançon, que le président est décidé à continuer dans cette voie pour essayer de développer une relation de confiance avec ses dirigeants qui ne sont pas très faciles à manier.
Cette méthode a au moins permis à Emmanuel Macron d'exister sur la scène internationale et l'Élysée reste convaincue qu'elle peut à terme porter ses fruits. Il est peu probable que des avancées majeures émergent des jours à venir, mais le président français espère au moins former ou consolider des alliances pour progresser sur certains dossiers.
Des dirigeants pas faciles à manier, pouvait-on entendre dans ce reportage de Franck Madvon. Boris Johnson en fait partie. Le nouveau Premier ministre britannique sera donc reçu à l'Élysée ce midi pour évoquer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Lui veut un Brexit à tout prix d'ici le 31 octobre. La chancelière allemande qu'il a rencontrée hier espère elle encore trouver un accord dans les 30 prochains jours. Boris Johnson, Bojo comme il est surnommé, est réputé pour son franc-parler, son manque de tact, cet habitué des polémiques a souvent pris pour cible la France, Élise Delève.
Les Français se comportent comme des cons sur le Brexit. Dernière provocation de Boris Johnson. Il est à l'époque ministre des Affaires étrangères et une équipe de la BBC le suit pour tourner un documentaire. Cette scène n'a jamais été diffusée car le futur Premier ministre aurait demandé à la chaîne britannique de couper la séquence au montage. L'affaire fait polémique en juin, mais il n'assume pas. Je n'ai aucun souvenir de ce commentaire, affirme Bojo en souriant. S'il ne se rappelle pas de cette insulte, il aura du mal à nier celle-ci. En 2017, en pleine négociation avec les Européens sur le Brexit, il compare François Hollande à un commandant de camp nazi.
Si M. Hollande veut administrer une correction à quiconque essaye de s'échapper, un peu comme dans les films sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que ce n'est pas la bonne voie pour aller de l'avant.
Lorsqu'il est maire de Londres, invité sur France Inter, il plaisante sur le nombre de Français qui vivent dans sa ville et estime qu'il est le maire de la 6e plus grande ville de France.
Il y a 250 000 Français et Françaises à Londres, donc je suis le maire de 6e ville française.
Quelques années plus tôt, il sourit, toujours en français, lors de l'ouverture du tunnel sous la Manche.
Peut-être que les Anglais vont avoir beaucoup d'influence sur les Français à Calais. Peut-être qu'ils vont regagner Calais.
Devant Emmanuel Macron, Boris Johnson va-t-il déraper ou soigner son langage en parlant du Brexit? Il aura en face de lui un président français aux antipodes, tant sur le fond que sur la forme.
L'autre crise qui agite l'Union européenne est italienne. Après la rupture entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, le président Sergio Mattarella continue aujourd'hui de recevoir les principales formations politiques pour tenter de trouver un dénouement. Matteo Salvini, leader de la Ligue, réclame lui des élections anticipées. Mais en cas d'absence d'un exécutif pour s'occuper du budget l'an prochain, la TVA risque d'augmenter automatiquement en fin d'année, selon ses opposants, une conséquence redoutée par de nombreux électeurs. À Rome, Antonino Gallofaro.
Une sénatrice est en train de s'exprimer face caméra après sa rencontre avec le président de la République. Mais dans ce bar, on entend seulement les paroles d'une émission satirique à la radio. Nicola a préféré couper le son de sa télévision. Ce commerçant n'a que faire de la politique. Mais que la crise puisse provoquer l'augmentation de la TVA de 3 points l'inquiète beaucoup.
Le coût de la vie est très élevé. Les rentrées sont minimes. On n'y arrive pas. 3% d'augmentation pour un petit commerçant comme moi qui doit payer ses employés. S'il doit payer 20-30 euros en plus chaque jour, il le ressentira beaucoup en fin d'année.
Nicola ne croit plus dans la politique, mais les élus doivent résoudre cette question de la TVA à tout prix.
Ils sont obligés, sinon on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à aller de l'avant.
La crise politique est bien sûr le principal sujet de conversation, surtout dans ce bar, le lieu de passage de ce quartier populaire de Rome. Mauro, retraité, ne conçoit pas que cette situation puisse provoquer la hausse d'une taxe.
Au lieu de s'augmenter les salaires, qu'ils baissent la TVA pour nous donner à nous quelque chose pour vivre, aux commerçants aussi. Sinon, ils ferment, ils n'ouvriront plus.
La politique l'énerve tellement que Mauro ne veut plus donner sa voix à aucun parti.
Les précisions d'Antonino Gallofaro. C'était hier l'un des sujets les plus discutés sur Twitter. Les incendies en Amazonie émeuvent les internautes qui s'inquiètent pour le poumon vert de la planète. Le Brésil est particulièrement touché. Les feux ont augmenté de 83% depuis le début de l'année. En cause principalement la politique environnementale du président Jair Bolsonaro qui lui rejette la faute sur les ONG. Ce sont elles qui ont publié les chiffres alarmants sur la progression des incendies. Juliette Onça.
La sécheresse explique en partie ces chiffres alarmants, mais c'est surtout la déforestation, encouragée par le gouvernement actuel qui sert d'étincelle. L'État le plus touché par les incendies est le Mato Grosso, au centre-ouest du pays, avec une augmentation de 87% par rapport à 2018. Ces feux en Amazonie sont le résultat direct des défrichements par brûlis servant à transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage. Les flammes qui dévorent une partie de la forêt amazonienne sont au cœur des débats politiques ces derniers jours. Début août, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro a limogé Ricardo Galvão, directeur de l'Institut de la Recherche Spatiale, l'INPE, principal organe responsable du calcul par satellite de ces aires déforestées. D'après l'INPE, la déforestation en juillet avait été multipliée par 4 par rapport à l'an dernier, une donnée scientifique qui a déplu au chef de l'État, climato-sceptique, convaincu que ces chiffres nuisent à l'image du Brésil. Fin de citation. Quant au ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, lui aussi climato-sceptique, il a assuré en début de semaine avoir mobiliser tous les effectifs de secouristes et les avions contre ces incendies. Mais lundi dernier, les effets de ces feux de forêt ont été ressentis jusqu'à São Paulo, à des milliers de kilomètres des zones déforestées. En plein après-midi, un nuage sombre a plongé la capitale économique dans une pénombre inhabituelle et spectaculaire. Et dès le lendemain, la presse a publié des images satellites montrant un nuage de fumée qui s'était déplacé de l'Amazonie vers le sud du pays.
Juliette Onça. Après 4 mois d'intenses bombardements par le régime syrien et son allié russe, les forces du président Bachar el-Assad ont repris hier le contrôle de la ville syrienne de Ran Cheroun. Bonjour Laure Stéphan.
Bonjour.
En direct de Beyrouth, la reprise de cette ville, c'est une petite avancée dans une province que le régime ne contrôle toujours pas.
Oui, c'est la première avancée significative des forces gouvernementales dans la province d'Idlib, cette région du nord-ouest syrien qui, vous l'avez dit, est soumise depuis presque 4 mois à de très violents bombardements aériens de Moscou et de Damas. Après plusieurs jours de confusion sur la situation dans la ville, des sources pro-régime affirment que l'armée syrienne a pris le contrôle de Ran Cheroun. Elle a pénétré hier dans des quartiers qui lui échappaient. Des opérations seraient toujours en cours pour nettoyer la ville des engins explosifs. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse pro-Damas. La perte de Ran Cheroun est évidemment un coup dur pour la rébellion, même si la plupart de la province reste encore tenue par l'insurrection qui est dominée par des djihadistes. L'entrée dans la ville permet au contraire au régime d'encercler le poste d'observation de Morek, tenu par l'armée turque et qui se situe à une dizaine de kilomètres au sud de Ran Cheroun. Cela veut dire que les tensions entre Ankara, Damas et Moscou risquent de s'accentuer. La ville s'est évidée de la plupart plupart de ses habitants avant que les combats s'intensifient dans ses environs il y a plus d'une semaine. Il était devenu impossible de vivre sous les bombardements aériens. La bataille a provoqué de nouveaux déplacements de population des villages environnants vers le nord de la province d'Idlib, des déplacés qui font face au manque d'aide humanitaire.
Laure Stéphan, merci. Les salariés irlandais de Ryanair ne pourront pas faire grève comme prévu aujourd'hui. Ils voulaient protester contre la compagnie aérienne qui les embauche, aux conditions de travail souvent décriées. S'ajoute l'annonce de la suppression de 900 emplois et la fermeture de bases aéroportuaires par la compagnie à bas prix. Ryanair a intenté une action en justice contre les pilotes grévistes irlandais. Et hier, la haute cour de Dublin lui a donné raison. En revanche, le même type d'action au Royaume-Uni a été rejeté. La grève aura donc bien lieu. La France insoumise fait sa rentrée sans Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file et fondateur du mouvement ne sera finalement pas présent à son université d'été qui commence à Toulouse aujourd'hui. Dans un message sur Facebook, le député écrit être au Mexique et se rendra début septembre au Brésil pour rencontrer l'ancien président Lula, emprisonné pour corruption passive et blanchiment d'argent. Faut-il voir un signe dans l'absence de Jean-Luc Mélenchon au grand rendez-vous de son propre mouvement ? Élément de réponse avec Hugo Charpentier.
C'est une thèse qui est très contestée parmi les cadres du mouvement, mais qui prend malgré tout une nouvelle ampleur avec l'absence de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Le député des Bouches-du-Rhône est en Amérique latine et durant son périple, il laisse le gouvernail à son bras droit, le jeune Adrien Quatennens. Une attitude inhabituelle qui pose question. Bruno Cotrès est chercheur au Centre de Recherche Politique de Sciences Po.
Ce qui est certain, c'est que quelque chose doit se préparer parce qu'on a quand même plusieurs signaux qui ont été envoyés. On a vu à la fois Adrien Quatennens mis en avant, on a vu qu'au moment même des élections européennes, c'est la jeune Aubry qui avait pris le leadership. Ça augure d'une sorte de passage, comment dire, un peu en biseau entre des générations, sans aucun doute que c'est la stratégie qui a été choisie par la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour conclure quoi que ce soit en ce qui concerne la perspective tout à fait éminente, tout à fait essentielle de la présidentielle de 2022.
Car pour beaucoup d'observateurs, si Jean-Luc Mélenchon a décidé de se faire discret, c'est bien pour trouver un second souffle en vue de 2022. Jean Petaut est politologue à Sciences Po Bordeaux.
Il a, je pense, tiré les leçons de ce qu'il faut appeler un échec politique, à savoir l'élection européenne. Et clairement, si Jean-Luc Mélenchon veut apparaître comme un candidat crédible pour la gauche, je crois qu'il faut qu'il prenne de la distance par rapport à l'appareil de France Insoumise et qu'il n'apparaisse pas comme uniquement le leader d'un des multiples partis d'une gauche éclatée.
Les prochaines semaines devraient donc apporter une réponse en ce qui concerne l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. En route vers un grand destin présidentiel ou au contraire vers le crépuscule d'une carrière politique.
Elles ne sont pas vos potiches et elles le font savoir. Des hôtesses d'accueil luttent contre le sexisme dans leur métier, contre le diktat de la minceur, les comportements et les remarques déplacées. Une pétition lancée il y a 10 jours a déjà obtenu plus de 20 000 signatures. Elle s'ajoute à une autre pour l'arrêt des hôtesses sur le Tour de France. Les hôtesses qui sont donc bien décidées à ne pas se laisser faire. Cédric Hermel a recueilli le témoignage de l'une d'entre elles.
La situation peut tourner au calvaire. J'ai été filmée sous ma jupe pendant le salon de l'automobile, écrit l'une d'entre elles sur Twitter. Des situations qui s'ajoutent à une certaine précarité. À 22 ans, Alice a enchaîné 250 CDD depuis ses débuts il y a 6 ans. C'est elle qui a créé le compte Twitter Patapotiche et lancé une pétition pour dénoncer une déconsidération de son métier, car certaines soirées sont parfois compliquées à gérer.
Il y a des missions, par exemple, où on va être plus empotiché. Donc ça peut être des événements prestigieux, des salons, des événements, on va dire, haut de gamme, où là, il y a encore plus un effort, en fait, pour nous rendre le plus féminine possible, nous placer à plein de points où on n'est pas forcément utile, mais où justement, c'est juste, en fait, pour décorer la salle. Je me souviens, moi, avoir fait une mission prestigieuse, et en fait, ma chef hôtesse m'a dit « Alors les filles, surtout, vous mettez bien du rouge à lèvres, parce que ces messieurs adorent le rouge à lèvres rouge. » Et donc là, on a clairement l'impression qu'on est là pour satisfaire le désir des hommes.
Pendant ces soirées, les agressions verbales ou sexuelles sont fréquentes, une situation vécue par Alice.
J'ai été agressée sexuellement lors d'une soirée par un grand patron. Il m'a touché le sein, il m'a obligée à danser avec lui. Et en fait, j'ai eu très peur et clairement, j'avais l'impression d'être sa marionnette et d'être un bout de viande.
Un problème remonté dans la hiérarchie de son entreprise, mais finalement classé sans suite. Des agissements dénoncés par le compte Twitter Patapotiche qui pointe du doigt le non-respect du code du travail. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, justement, a été sollicitée au officiellement mais n'a pas encore répondu. Quant à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a répondu que le problème n'était pas encore sa priorité.
Cédric Hermel, la météo, un ciel bleu, du grand soleil sur la plupart de l'Hexagone aujourd'hui. Quelques averses orageuses attendues dans le sud-est. Il fera jusqu'à 33 degrés en Corse. 8h15, vous retrouvez Guillaume Erner pour la suite des matins d'été.
Eh oui, parce que c'est l'été, d'après votre météo. Merci beaucoup, Margot Delpierre.